bien plus qu'une radio, Radio Plus sur 104.3. Et vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo.
Bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Et donc aujourd'hui, nous avons retenu comme thème Hugo Claus, un grand écrivain de langue néerlandaise. Hugo Claus, dont certains critiques d'ailleurs n'hésitent pas à le comparer comme étant le Victor Hugo de la langue néerlandaise. Alors, Hugo Claus, il est né le 5 avril 1929 à Bruges. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 garçons. Son père est imprimeur. Et bien sûr, donc Hugo Claus va donc baigner dans le monde des livres très de bonheur. Il est d'un milieu plutôt aisé. Et c'est aussi un enfant qui est particulièrement turbulent. D'ailleurs, son père va le mettre en pension dans une institution catholique à Courtrai, où la discipline est bien sûr très stricte. Il y restera jusqu'à peu près l'âge de ses 12 ans. Les relations avec son père sont tendues. C'est un garçon qui est plein de vie et plein de facéties. Et beaucoup aussi de révolte contre la médiocrité déjà quand il était simple adolescent. Et il était donc un garçon doué mais très rebelle déjà. Les relations donc avec son père sont tendues et d'ailleurs dès 1946, il n'a alors que 17 ans, il quitte la Flandre pour venir travailler comme simple ouvrier dans le nord de la France. C'est pas un gamin facile, comme on dirait aujourd'hui. Et évidemment, son père, a beau essayer de le mettre sur le droit chemin, mais en fait, c'est un garçon plein d'imagination, turbulent, bref, un esprit rebelle.
Ik ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Als het dansorkest gaat spelen, want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou, ik ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zal wachten, maar leef ik ook nog in jouw gedachten? En ben je mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. Staat geschreven. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou.
Oui. Tura, vous interprétez Ensam Sonder Jou, Je suis seul sans toi. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus 104.3.
Vous pouvez aussi, bien sûr, l'écouter sur le site internet www.radioplus.fr. Et donc, aujourd'hui, nous avons choisi d'évoquer, au cours de cette émission, Hugo Claus, donc un grand écrivain de langue néerlandaise. Et notre homme ne manquait pas de talent puisque dès ses 21 ans, donc nous sommes alors en 1950, qu'il publie déjà son premier roman, La chasse au canard. Alors c'est un roman qui remportera d'ailleurs un prix, le prix Léo Crane, et c'est un ouvrage scabreux, comme on dit à l'époque, puisque en fait cet ouvrage aborde des sujets sensibles sur la sexualité, l'inceste. Alors évidemment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans une Flandre très catholique, et évidemment, ça lui vaut bien sûr les foudres de nombreuses autorités, et aussi... Hugo Claus, bien sûr, bouscule les choses. Il aime d'ailleurs provoquer, il aime aborder des sujets particulièrement sensibles. Il n'a pas peur de bousculer un petit peu l'ordre, le petit bourgeois, comme il dit, de l'époque. Il quitte la Flandre pendant quelques années pour aller vivre à Paris de 1950 à 1953. Il fréquente en particulier les surréalistes et il rêve de devenir comédien. Il va fréquenter un monsieur qui c'est un ce qu'on appelle un des théoriciens du théâtre, Antonin Artaud. Alors qui est Antonin Artaud ? Eh bien, c'est un monsieur donc qui est né à Marseille le 4 septembre 1896. Il va décéder à Ivry, dans la banlieue donc parisienne, le 4 mars 1948. Il est considéré comme le théoricien du théâtre. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu déjanté. Il est acteur, il est écrivain. C'est un homme qui aussi a vécu un non-martyr, puisqu'il souffrait depuis l'âge de ses 4 ans de douleurs physiques constantes. Il se soignait avec des drogues, bien sûr. Et il avait naturellement, à cause de ses douleurs, beaucoup de difficultés avec les relations avec les autres personnes. Toutes ces souffrances physiques, évidemment, ont beaucoup inspiré son œuvre et aussi sa sensibilité par rapport aux problèmes qu'il pouvait rencontrer. Et donc, ce monsieur, évidemment, à travers tout ça, eh bien, il l'a traduit par ce théâtre qui était vraiment décalé par rapport au théâtre dit classique.
Yeah. deze nacht.
Lauraline, tu m'as menti mille fois. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure flamande, préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Et donc aujourd'hui, nous évoquons Hugo Claus, le Victor Hugo néerlandais, selon certaines critiques littéraires. Et donc Hugo Claus, à sa période parisienne, donc il vit entre 1950 et 1953, donc à Paris, et il rencontre donc Antonin Artaud, donc le théoricien du théâtre Nouvelle Vague. Et d'ailleurs, Hugo Claus aurait aimé être comédien, mais en définitive, c'est plutôt vers l'écriture qu'il se tournera rapidement. Et d'ailleurs, il publie donc un ouvrage, il a à peine 19 ans, et qui connaît déjà un certain succès. Il écrit aussi des pièces, une pièce de théâtre qui n'a alors que 21 ans. Cette pièce va d'ailleurs rencontrer là aussi un réel succès et qui va d'ailleurs même booster, comme on dit aujourd'hui, qui va lancer sa carrière d'écrivain. Ces pièces sont traduites en plusieurs langues, dont le français. Et d'ailleurs, Hugo Claus choisit, puisque après sa période parisienne, il aurait pu très bien, comme d'autres, écrire en français. Eh bien non, Hugo Claus choisit d'écrire en néerlandais. C'est avec Sacha Pitoëf, qui est une référence dans le monde du théâtre à l'époque, qui se charge donc de prendre sa pièce. Nous sommes alors donc en 1950 et Hugo Claus donc eh bien connaît un véritable succès et donc une réputation donc d'écrivain déjà talentueux. Il choisit donc, comme je disais tout à l'heure, le néerlandais, non par conviction nationaliste comme on pourrait le penser, mais simplement parce que cette langue, bien sûr, c'est sa langue maternelle, c'est la langue qu'il aime. D'ailleurs, il prendra des positions qui vont lui créer quelques inimitiés avec certains mouvements donc flamands, puisque il va même jusqu'à signer une pétition contre la séparation de la Flandre avec la Belgique. Donc évidemment, tout ça, ça ne le rend pas très sympathique auprès de certains mouvements politiques flamands de l'époque. Mais c'est son choix, on peut pas, bon, c'est ainsi, il a choisi donc plutôt de rester dans une Belgique unie plutôt que de vouloir l'indépendance de la Flandre. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque pour bien comprendre, hein. Je vous rappelle, Hugo Claus, il est né en 1929, c'est-à-dire que la Belgique n'a pas encore 100 ans, hein, puisque la Belgique a été créée en 1830. C'est un état tout jeune, c'est un état aussi qui est totalement artificiel, qui a été créé donc par la volonté surtout des Anglais, qui ne voulaient surtout pas que les Pays-Bas catholiques tombent dans les mains de la France. Et pourquoi? Parce que évidemment, il y avait le port d'Anvers et les Anglais ne voulaient pas que le port d'Anvers tombe dans les mains des Français, parce que selon eux, évidemment, Anvers, c'était un revolver pointé sur le port de Londres.
Jij bent die ene die ik hebben wou. En ik ben God daarom zo dankbaar voor. Jouw liefde is een zaligheid. En die wil ik nooit meer kwijt. Daarom geef ik jou iets tot in de eeuwigheid. Een ster. Ster die op je lijkt, het is de mooiste uit het hemelrijk. Nu gaat ons leven ooit voorbij, dan schijnt ze nog voor jou en mij. Die ster die blijft bij ons tot in de eeuwigheid. Een ster die jou nooit meer verlaat, die altijd voor je straalt, die geef ik dan jou na. Een ster, ze is speciaal.
Paul Van Samong, Een ster, une étoile pour toi. Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3.
Et donc l'émission L'heure flamande, où nous évoquons aujourd'hui un grand écrivain de langue néerlandaise, Hugo Claus. Alors petit rappel, donc Hugo Claus qui naît à Bruges, donc l'État belge n'existe que depuis 1830, donc il y a même pas 100 ans quand Hugo Claus voit le jour que cet État existe. Et il faut vous rappeler que, eh bien, malgré que la Belgique compte plus de la moitié de sa population de langue flamande, eh bien, la constitution est rédigée exclusivement en français. Seul le français est reconnu comme langue administrative et juridique. Et d'ailleurs, il faudra attendre 1967 pour que enfin la constitution belge soit rédigée donc aussi en néerlandais. C'est vous dire le long chemin de combat que a dû mener le peuple flamand pour reconnaître son identité, sa langue. Et c'est dans ce contexte-là, bien sûr, que Hugo Claus vit en particulier des années difficiles, hein, puisque entre les deux guerres, évidemment, en Belgique, eh bien, les mouvements flamands essaient de, bien sûr, de faire reconnaître leur langue, avoir des universités, des enseignements en langue néerlandaise. C'est aussi la suite du mouvement donc Front Beweging, où beaucoup de soldats flamands, eh bien, ne comprenaient pas les ordres qu'ils étaient donnés par les officiers de langue francophone, de langue française, si bien que l'on compte un taux de mortalité très important parmi ces combattants, et donc une grosse injustice évidemment ressenti par ces soldats flamands tués par par ce mépris de la langue. On peut revenir, en fait, le mouvement flamand, c'est dès 1840, donc à peine 10 ans après la création de l'État belge, que les premières revendications, bien sûr, pour la reconnaissance du néerlandais, commencent à avoir le jour. C'est donc, comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr, ce gros problème que les soldats flamands ont eu pendant la Première Guerre mondiale, les revendications, bien sûr, vont être beaucoup plus fortes après cette guerre, si bien que d'ailleurs pour se souvenir du sacrifice de ces hommes, il y a une tour qui sera construite, la première tour de l'Isère à Dixmude, qui d'ailleurs sera dynamitée en 1946 par les services secrets belges, dit-on. C'est dire la violence que le peuple flamand subit à ce moment-là pour lutter et pour promouvoir bien sûr son identité linguistique. C'est donc dans ce contexte naturellement que notre écrivain Hugo Clost situe son action de son roman, en particulier donc le roman qui l'a rendu particulièrement célèbre à travers le monde, c'est Le Chagrin des Belges. Hugo Clost donc ici va décrire bien sûr va dénoncer bien sûr la médiocrité peut-être petit bourgeoise, mais aussi le fanatisme de certaines personnes par rapport à une espèce de nationalisme. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, hein, puisque l'Église catholique mène un véritable combat contre l'idéologie communiste qu'elle estime être une menace pour le monde libre. Donc c'est dans ce contexte assez violent où on situe donc Le Chagrin des Belges. Et d'ailleurs, nous allons vous en donner ici un petit extrait de ce roman, donc Le Chagrin des Belges de Hugo Clost.
Monsieur Vrilac était un petit vieux branlant, portant un chapeau noir à large bord sur des mèches jaunâtres qui lui tombaient sur les épaules. Il avait étudié la langue flamande jusqu'à en devenir presque aveugle. Il passait souvent dans la rue Philippe d'Alsace avec sa canne blanche. Les enfants gambadaient derrière lui en piaillant, venait toucher son pardessus noir crasseux et lui crier « La lionne, la lionne !» Parce qu'un jour, à Radio Wall, il avait fait une conférence pour expliquer que l'emblème du Lion des Flandres sur le drapeau, ou le blason, était en réalité une lionne, car elle symbolisait la mère patrie. Qu'est-ce que ça lui avait rapporté à Monsieur Vrilac ? Une médaille de la ville et c'est tout. Salsef essuya son visage avec les chiffons sales en tournant sa main droite.
Voilà, donc là aussi un petit extrait donc de ce roman que je vous invite bien sûr à lire, Le Chagrin des Belges.
Soldiers of love, fill me the up, keep going to me, all of us.
Yann Sapierre, les Soldiers of Love. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus 104.3, la radio de votre région.
Et nous évoquons donc aujourd'hui les grands écrivains de langue néerlandaise, donc Hugo Claus. Alors on parlait un instant, et donc vous avez même écouté un extrait de son œuvre majeure, Le Chagrin des Belges. Alors c'est un roman qui raconte en fait les aventures d'un élève d'un pensionnat de religieuses. Le héros s'appelle Louis Sénave, donc c'est un garçon qui bien sûr est... très intelligent, il décrit bien sûr cette période particulièrement troublée de l'époque 1939 à 1947, hein, où bien sûr il y a cette fameuse deuxième guerre mondiale avec l'occupation allemande sur une grande partie de l'Europe. Ce petit garçon, eh bien, il regarde avec une certaine lucidité le monde des adultes. Il n'hésite pas à dénoncer bien sûr les bassesses. Et puis les trahisons, l'ambiguïté des sentiments des Flamands, évidemment, qui sont pris en tenaille entre fidélité au royaume de Belgique, mais aussi il y a l'appel du pied des autorités allemandes pour reconstituer le grand empire germanique, évidemment. Tout ça sous la pression d'une église catholique qui veut mener un combat contre le bolchevisme, comme on appelle à l'époque. Et donc tout ça, bien sûr, crée une atmosphère particulièrement lourde. C'est un roman qui est un peu poil à gratter. Et évidemment, il n'épargne personne. Donc c'est un roman que je vous invite, bien sûr, à lire. Mais aussi, pour bien le comprendre, n'hésitez pas à relire un peu l'histoire de ce royaume de Belgique. On a eu là récemment, bien sûr, on en a beaucoup parlé avec les Diables Rouges lors de cette Coupe du Monde. L'histoire de notre voisin ne se résume pas uniquement au football. Et donc, c'est une histoire très riche, très complexe. Et pour bien savourer cet ouvrage qui est Le Chagrin des Belges, je vous invite donc à découvrir et à lire un peu l'histoire de ce royaume de Belgique, donc qui est notre voisin le plus proche.
Peter Bruegel de Nauwe zou opstaan nog te dood. Voor de wereld als gave was bloed er nog zo rood. Als Germain zou er nog oorlog zijn. Allereerst ging hem naar Brussel, naar zijn atelier. En dan nam ze een bus, alle pensielen in wat Duits kou mee, naar zijn Brabantse steen. Hij was nog niet vergeten waar dat ze woonhuis was. Het was wel wat versleten, de mijmel woonde in zijn kast, kapot was het vensterglas. Eerst vroeg hem om de mensen in Spanje neer nog bos. Leefde naar eigen wensen, zijn ze nog even de was in ons land of krijgen ze verstand? De mensen wouden bruigelen, ze hem Brabants niet verstaan. Dus is hem stil en treurig naar een café gegaan, die door in zijn jeugd al laat gestaan. Hij vroeg in het zover Brabants de kastelein om drank, maar de patron die zei pardon, je ne comprends pas flamand, en merdant dans le cœur du Brabant. Peter Bruegel de Nauwe, die je doch die Sweer so war, dass ihr durch uns noch brave, das fein mordet in die Fresna muss sein, da finke grutschig ran. Het spons is een verdreven, ooit ons klaar voor het land. Maar nou hebben we gekregen, het Frans om de Marolle kan, dat is boven mijn verstand. Piet Bruegel is dan droevig terug naar zijn graf gegaan, nadat hem op zijn kamer een heel klein morgen van schilderij vol kleuren toen ontstond. En daarop stond geschilderd een vlaming in het gevang van zijn complexe, de sleutelletter bij als een zaad, de hoed open mocht hem vragen.
Vanessa van de Velde, vous interprétez Peter Bruegel in Bruxelles. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie Joux sur Radio Plus.
Et nous évoquons donc aujourd'hui cet grand écrivain Hugo Claus. Hugo Claus, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est un personnage qui était facilement abordable, pas fier du tout. On pouvait discuter facilement avec lui. Et donc c'était là l'occasion d'une fête organisée par à l'époque le consulat de Belgique à Lille. Et donc Hugo Claus, parlait aux uns et aux autres. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir un petit peu avec lui. Et il me confiait que il ne se sentait jamais aussi flamand que quand il venait en Flandre française. Il disait, bon, moi, quand je suis en Flandre belge, je suis belge, mais quand je suis en Flandre française, je suis flamand. Et donc, c'est ce choix aussi de Hugo Claus d'écrire en néerlandais, sa langue natale, et il a été plusieurs fois mis sur la liste pour recevoir le prix Nobel de littérature, mais malheureusement il ne l'a jamais reçu. Il a été donc souvent proposé, mais jamais il a été honoré de ce prix Nobel de littérature. Il y a eu un seul Belge qui a obtenu d'ailleurs ce prix, c'est Maurice Maeterlinck, mais celui-ci écrivait en français. Alors, on va peut-être pas faire des conclusions trop hâtives, mais néanmoins, c'est curieux que malheureusement, ce grand écrivain qu'est Hugo Claus n'a pas pu recevoir ce prix Nobel de littérature, il le méritait bien. Hugo Claus, ce n'est pas seulement un écrivain, c'est aussi un poète qui a écrit, bien sûr, beaucoup de poésie. Alors évidemment, ce sont des poésies écrites en néerlandais, et traduire, bien sûr, c'est toujours, comme dit l'autre, un peu trahir. Mais naturellement, nous n'allons pas ici faire la lecture des extraits en néerlandais pour la simple compréhension. Mais nous allons donc écouter, après cette page musicale, eh bien quelques extraits de poèmes donc écrits par Hugo Claus.
Ontzettend verliefd, wil jou met ding voor mij alleen. hart is op hol, zeg maar niet nee.
Paul Severs, ik ben verliefd op jou, je suis amoureux de toi. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus 104.3.
Et donc aujourd'hui, nous évoquons donc Hugo Claus. Alors Hugo Claus n'était pas qu'un romancier, donc talentueux. C'était aussi un poète, d'ailleurs, très vite, dès l'âge de 16 ans, il écrit ses premiers poèmes. Et nous allons d'ailleurs ici écouter quelques poèmes, bien sûr, qui ont été traduits en français. Mais je vous rappelle, donc, Hugo Claus avait choisi d'écrire en néerlandais, sa langue maternelle. Donc écoutons le premier poème.
Non, en fait, il s'agit d'abord d'un passage du livre de la revue Nord, une revue de critique et de création littéraire du Nord-Pas-de-Calais, consacrée, le numéro 54, en octobre 2009, à Hugo Claus. Et on y lit la langue, sa langue, justement. Oui, Claus a toujours écrit en flamand. Aux Pays-Bas, on ne comprend pas toujours son langage, parce qu'il cherche souvent des mots et des tournures dans les dialectes. En réalité, à la suite de ses longs séjours dans tous les pays d'Europe, mais aussi dans le Nouveau Monde, il avait oublié son propre dialecte. Non, il ne parlait pas le dialecte, mais il avait besoin d'une langue expressive pour son esprit bouillonnant. Et là, la langue conventionnelle ne suffisait pas. Guido Reselle, le plus grand poète flamand, avait connu le même problème et créé lui aussi sa propre langue, au besoin avec des éléments empruntés à celle du Moyen-Âge. De cette langue aussi générale que possible, mais qui possède toutes les nuances et toutes les variétés régionales, sociales, professionnelles, toute la palette de la couleur locale qui va du mythologique au scatologique, on peut dire qu'elle offre l'exemple d'un exceptionnel consensus entre la langue littéraire et le langage parlé. Elle se présente en effet comme une véritable orchestration qui associe proverbes, locutions courantes, images populaires au registre tout aussi magistral, des références à la littérature internationale dont Claus possède la plus vaste connaissance qu'on puisse imaginer. Dès les premières phrases, cette langue s'impose. Elle passionne et entraîne le lecteur ou le spectateur vers un monde irréel de rêves impossibles, de sentimentalité poétique, d'espérance non réalisable, un bruit in de Moron, ou le jette littéralement dans la rue, dans la brutalité d'un réalisme rude et cru, taillé à la hache, comme dans Friday, vendredi, et cela sans avoir besoin d'événements externes pour évoquer un microcosme ou un monde. La langue de Claus est son monde, le monde.
Ze hebben me mijn zachte G al vaak verweten, sinds ik hier in het noorden ben beland. Ik heb hier heel wat builen slechte friet gevreten. Ze hebben me gezegd, je moet het maar vergeten. Die passie voor het blonde Vlaamse land. Maar aan de weg naar Scherpenheuvel, tussen Geel en Kastelee, staat een huis met groene luiken aan een kleurige allee. Je ziet het oeuvre van gezellen en de werken van Terlink door het raam. En op een bordje naast twee goed gepoetste bellen, daar staat zijn naam, de naam van Sjefke. Sjefke, Sjefke, Sjefke. Och, pastos kun je ook in Amsterdam wel kopen, een glas Stella in een duur café. Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen, daar was een staminee, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons twee. Aan de oevers van de Neten, tussen Herentals en Lier, ben ik Nederland vergeten bij de frieten en het bier. En daar lag ik met Sjefke in het koren, zei ik dingen waarvoor ik me nu schaam. En ik schreeuwde, heel de wereld moest het horen, zijn naam, de naam van Sjefke. Sjefke, Sjefke, Sjefke. Ik ben terug in Amsterdam, want er is herfst gekomen en de wind blies door de muren in ons hart. Hij heeft de warmte van de zomer met zich meegenomen en daar woeien in de verte al mijn zomerdromen. Om ons heen werd de wereld kaal en zwart. Op het busstation van Hasselt stond ik eenzaam in de kou. Op het leeg perron in Brussel stond ik, Sjefke, zonder jou. Maar nu ik terug ben in het noorden, kijk ik dikwijls verdrietig uit mijn raam. Want dan hoor ik weer die lieve Vlaamse woorden en weer die naam, de naam van Sjefke. Sjefke, Sjefke, Sjefke.
Dela Bozers, vous interprétez Sjefke. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande, préparée par, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus 104.3. Et ce matin, nous vous parlons d'Hugo Claus. Et je vais là vous lire un de ses poèmes traduits. Que la plupart des choses atteignent la perfection et puis s'éteignent, ainsi le veulent Einstein et le monde entier, et que les gens croissent comme la ramée sous une même pollution atmosphérique, et dans leurs souvenirs s'évanouissent identiques. C'est ce qu'assure le temps, qui dans ma nuque plante ses dents. Il me faut donc louer désespérément cet instant glorieux où je te vois exposé, dans ta jeune fascination inégalée, temple nu qui sous mes yeux s'abat impunément. C'est un poème que Claus avait dédié à la femme aimée elle-même. Donc, interview, version Claus. Quelque chose frappe à ma porte. Et oui, c'est ce jeune poète, je reconnais ses dents, qui a jadis chanté la gloire de mes allitérations, qui depuis, ô familiarité, s'est régulièrement aiguisé les dents sur mes mollets dans son journal. Je l'invite à entrer. Il dit qu'il vit de conférences et d'interviews, ça et là. Sa femme est dépressive la plupart du temps. Je l'aide à ôter son manteau. Je lui verse un petit verre. Qu'il m'ait pris à partie dans son journal, c'est désolant, dit-il. C'est bien dur, mais c'est ce que voulait son chef de la culture. Notre conversation devrait, à grands traits, parler d'amour sans apprêt et de politique sans citer de nom. Je lui verse encore un petit verre. Entre nous, dit-il, je vous trouve insensible à ce qui est neuf. Vous ne captez pas l'esprit du temps et vous vénérez trop les anciens maîtres. Et pas d'enthousiasme pour la technique, car si la technique est notre dieu et notre enjeu, ne devons-nous pas nous pencher ensemble sur la comète Internet ? Encore un genièvre et une petite bière. Et pardonnez-moi, vous êtes parfois très hermétique. Hermétique, moi ? Dans mes vieux jours, avec mon rire contenu, mon rugissement, cette peine perdue ? Moi qui cependant copie en tremblant ce qui est existant ? Et votre schéma de rime, si évident même pour un enfant quelque part, la rime, ça me laisse froid. Et puis l'idée sous-jacente de votre philosophie, c'est quoi en fait ? En fait, vous ne m'apprenez rien. Je pense à une vie antérieure, les têtes de bélier se heurtaient, les lapins avaient des noms, les dindons gloussaient pour avoir du grain, les patates en tablier de grand-mère, je les tirais avec une carabine à air. Je pense à des contrées lointaines, le rat-garou spectral qui survit puisqu'il pue tellement, les lémures au lieu tempe, l'orang pendec qui vole les enfants et adore le foie humain. Je pense au maître mort, Byron qui conservait les touffes de ses cheveux et les numérotés, ses manuscrits, beaucoup de ratures, de remords d'écriture, mais les rimes intactes. Ezra Pound hurlant de rire au cinéma devant des comédies débiles. Son exuversité, comment il s'est tu pendant des années, puis a dit « J'ai tout fait de travers », Stevie Smith qui pensait toutes les choses qui pouvaient nager dans une sagesse merveilleuse. « Des pas japonais, dis-je. »« Pardon, dit-il. »« Des pas japonais, sur lesquels le poème peut marcher. » C'est ce que Rezele et Emine ont fait pour avant nous. Je l'aide à remettre son manteau, je le reconduis à la porte. Dehors, je montre du doigt la lune, il reste là à contempler mon doigt. À marée basse, à marée au silence des vases de l'escale, tirant sur la chaîne des heures, tel un ferry portant le monde, une musique joyeuse accapare la vague et s'y perd. À calée basse, comme à distance, tu pénètres à rebord les sensations de la ville à l'oreille des derniers arbres, murmures qui claquent sur la digue toujours surprise dans le bassin à marée basse. À la petite demande, tu vas au monologue qui s'appelle ironie, le temps n'est pas. Tu suis le rythme du sable, un nuage jette un regard, parfois une grimace, le temps se retrouve. Voilà. Donc, un extrait, donc là, c'est un, je m'arrêterai là, à marée basse, un extrait d'un poème d'Hugo Claus.
L'émission touche déjà à sa fin, donc Hugo Claus, lui malheureusement, sera atteint de la maladie d'Alzheimer et il choisit de lui-même de mourir, donc il va donc faire appel à l'euthanasie et il décède à Anvers donc le 19 mars 2008. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus. À bientôt.